Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Florent. Alors peut-être que vous le connaissez pas, il est notamment le créateur du site Mademoiselle, il a fait plein d'autres choses et, une fois n'est pas coutume, c'est lui qui se présentera un peu plus tard. Il est aussi papa bien sûr, et donc on va se parler de différents sujets. Comment être père quand on crée une boîte? Quels regrets on peut avoir, ou pas? Comment parler de sujets intimes avec ses filles qui sont ados? Comment accompagner ses enfants dans un environnement comme le collège quand on y a soi-même connu le harcèlement? Comment parler à ses enfants du harcèlement que l'on subit sur les réseaux sociaux? Autant de questions qui amènent un partage d'expériences précieux de la part de Fabrice. Merci beaucoup à lui pour son temps, pour son expérience, pour ses échanges et pour sa confiance. La première question sera donc, mais qui est Fabrice Florent? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Je suis un homme cis hétéro, blanc, quadragénaire, j'ai 44 ans. Je suis également père de deux adolescentes qui s'appellent Lina et Kim, qui ont 15 et 13 ans respectivement. Et dans la vie, je réalise, pour l'instant en tout cas, des podcasts d'interview où j'interview des gens dans mon canapé ou ailleurs pour leur parler de plein de sujets différents. Voilà. Donc j'ai un podcast sur la paternité, j'ai un podcast sur où je fais parler des mecs, alors un podcast où je fais parler des pères de paternité, j'ai un podcast où je fais parler des mecs de masculinité, j'ai un podcast où je fais parler des gens qui ont plutôt réussi, ou en tout cas dont on se dit qu'ils ont réussi, je leur fais parler de leur parcours vers le succès, c'est très intéressant aussi. Et là mon petit dernier, c'est que je fais parler des gens de leur rapport à l'argent, et ça va être un sacré délire aussi.
Je recommande d'ailleurs, j'ai écouté le premier épisode.
Merci.
Et non, mais vraiment, ça a été un très beau moment. Je pense que c'est un vrai sujet, y compris dans la parentalité. Je pense que l'argent dans la parentalité, il y a vraiment un truc à creuser, tu vois.
Exactement.
Et, mais ça sera sûrement dans ta ligne éditoriale de génie. Moi, on a déjà eu l'occasion d'enregistrer un petit peu sur tes débuts de daron. Et je te remercie encore pour cette contribution qu'on peut retrouver dans mon livre « Tu vas être papa ». Je vous invite à acheter le livre, à écouter ces 15 minutes avec Fabrice.
Rien on va pas les refaire. Ça vaut la peine.
En fait, on va pas les refaire aussi. Donc voilà. Mais rien que pour ça. Non, mais mine de rien, on dit des trucs super. Tu sais que je l'ai réécouté en préparant cet épisode. Et on dit des trucs super. Et tu dis des trucs super. À un moment, je dis un truc super. Voilà, quand même. Et d'ailleurs, tu me dis merci de dire ça. Et je trouve ça super chouette. Et moi, il y a plusieurs choses que, pour le coup, par rapport à toi, j'ai vraiment envie de te poser des questions que moi, je me pose sur toi, tu vois.
Okay.
C'est-à-dire que Fabrice Florent, c'est aussi le fondateur d'un média féministe. A-t-on droit de dire féministe? Oui, on a le droit. Un média féministe qui s'appelle Mademoiselle.
J'ai arrêté de le dire, pour ce qui me concerne.
D'accord, mais le média, lui, il est féministe, on peut le dire.
Et j'ai arrêté de le revendiquer aussi, à un moment donné.
Mais Mademoiselle.
J'ai arrêté de le revendiquer.
Ah ouais,
j'ai arrêté de revendiquer Mademoiselle comme étant féministe. C'était trop de pression. C'était une étiquette que j'étais fier à un moment donné de me coller. Je me disais, c'est quand même super qu'on le revendique, parce qu'en fait, j'avais la sensation que c'était ça qu'on était en train de faire. Mais ça nous a collé une étiquette et des attentes sur toute une partie du lectorat beaucoup trop grande. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte, moi, que juste en fermant sa mouille et en arrêtant d'être fier de le revendiquer, parce qu'en fait, c'était que égotique, hein, tu vois, vraiment, c'était à la fois égotique, mais aussi quelque part politique, parce qu'il y avait un peu un côté, si nous, on ne le dit pas, qui va le dire, quoi, tu vois. C'était il y a longtemps, hein, c'était en 2010, enfin, tu vois, 2009-2010, donc c'était un petit bail. C'était avant que ce soit cool, en tout cas, d'être féministe. Et donc il y avait à la fois cet aspect un peu politique de, bah en fait il faut le revendiquer parce que c'est important et c'est comme ça qu'on va démocratiser un peu l'usage du mot, etc. mais ça nous a collé énormément de pression et c'était aussi beaucoup d'ego quoi. Il y avait un vrai côté attends mais c'est ça qu'on est aussi tu vois, c'est à ça qu'il faut qu'on se raccroche, alors qu'en fait pas du tout, on avait juste qu'à faire les choses parce qu'en fait en vrai on le faisait. Et après on a arrêté de dire qu'on l'était et on a continué à le faire.
Je suis très content de commencer par une parenthèse pour le coup. Et non mais c'est très chouette parce que moi je trouve ça très intéressant parce que tu sais que on se parle régulièrement. C'est que moi-même, j'ai arrêté d'utiliser le mot féministe ou allié depuis plus d'un an maintenant, me concernant en tout cas. Parce qu'en effet, c'est vrai que ça peut entraîner déjà une espèce de d'ego trip qui n'est pas du tout agréable ni pour soi-même, ni pour l'entourage ou pour les gens qui peuvent écouter les contenus, je pense. Et en plus, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée pression parce qu'il faut une parole parfaite, parce qu'il faut... Il faut des sujets parfaits, il y a quand même de très très grosses attentes de perfection, je trouve, à partir du moment où tu colles ce mot quelque part. Et ça peut être assez complexe. Moi, la question que je me posais surtout, c'est que c'est quand même cette boîte, un petit peu, cette boîte que tu as créée, mademoiselle.com, c'est quand même un gros média, c'est quand même une histoire de succès, pour reprendre le nom d'un podcast bien connu. Et toi, en tant que père, Quel rôle ça a eu, mademoiselle, dans ta construction de père ? En tant que père, au niveau de... Ah, tu entends bien à tous les niveaux, donc on va commencer par un niveau, si tu veux bien. Au niveau de tes réflexions, du fait d'avoir des filles, est-ce que mademoiselle a joué un rôle, et si oui, lequel ?
Énorme. C'est la construction... En fait, mademoiselle a tellement contribué à l'homme que je suis aujourd'hui, en fait... que forcément ça a aussi contribué au père que j'étais, que je suis toujours, que j'ai été en fait en tant que patron et... parce que je suis... Quand je dis j'étais, c'est parce qu'en fait je suis plus patron aujourd'hui, donc j'ai un peu ce truc. Mais surtout en fait dans le plus jeune âge en fait, je trouve que c'est des moments qui sont vraiment charnières en fait. Et bah alors l'histoire veut et la légende raconte qu'en fait... on a conçu notre première fille le jour où j'ai lancé Mademoiselle. Bon, ce qui est une info avérée en plus, parce que bref, voilà, j'ai lancé Mademoiselle le 1er octobre 2005 et notre fille est née le 30 juin 2006, donc autant te dire que on est vraiment sur 9 mois plus tard.
C'est quand même bien réglé là.
Et en fait, à l'époque, il y avait un forum. Enfin, Mademoiselle, il y a toujours eu un forum autour de Mademoiselle. Et moi, mon objectif, c'était de créer un forum parce que je voulais aussi qu'il y ait une forme de transmission entre les lectrices, tu vois, et les membres de la communauté. Et en fait, pendant la grossesse de mon ex-femme, parce qu'aujourd'hui, on est séparés, le forum était en train de grossir, tu vois, petit à petit. Il était en train de naître et il était lui-même en train de grossir. Donc, il y avait de plus en plus de membres qui arrivaient. Et un jour, il s'est créé un sujet sur le rapport de ces lectrices, tu vois, de ces jeunes femmes qui avaient entre, on va dire, 15 et 25 ans, tu vois, à leur père. Et il y avait des dizaines de pages de discussion. Et en fait, je crois que j'ai pris ma première claque dans la figure, en fait, parce que, donc à l'époque, on ne savait pas qu'on allait avoir une fille, on l'a su vraiment le jour de la naissance, on ne voulait pas savoir. Et je me souviens que j'avais eu ce sujet en long, en large et en travers, en fait, en me disant « Waouh !» Mais en fait, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de rapport apaisé au père, en fait. Il n'y a pas de rapport sympa. C'était soit un peu le mec, il est là, mais il n'existe pas, tu vois. Soit, ok, en fait, mon père est sur un piédestal, en fait, et j'arriverai jamais à trouver un mec suffisamment bien pour le détrôner, quoi, tu vois. Soit mon père est un connard qui est incapable de me comprendre. Et je me souviens qu'il y avait une anecdote où il y avait un père qui avait carrément enlevé la porte de la chambre de sa vie adolescente, quoi, tu vois, en disant en fait, voilà.
C'est un peu chaud. Quand même.
C'est chaud. Et en fait, bah voilà, ça c'était la première impression. Et je me souviens très bien que, en fait, quand on a eu notre fille, l'un des tout premiers trucs que je suis allé faire, c'est aller chercher un livre sur le rapport des pères aux filles, parce que je sentais qu'il y avait un truc qui était compliqué. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, comme quoi, tu vois, la boucle est bouclée, c'est que j'avais acheté ce bouquin, qu'entre-temps, j'ai perdu. Et un jour, j'en ai parlé dans un podcast sur Mademoiselle, à l'époque. Et il y a une des lectrices qui me l'a retrouvé, en fait, et qui me l'a offert. Je l'ai encore là aujourd'hui. Où, en fait, c'était un bouquin qui n'est plus trop édité, qui s'appelle « Père d'aujourd'hui, fille de demain ». Si tu veux, je te renverrai la fiche sur Amazon ou je sais pas quoi, mais ça a l'air d'être assez compliqué de trouver. Et en fait, c'était assez fabuleux parce que c'était des entretiens entre père et fille, mais séparés. Donc, si tu veux, t'avais un entretien avec le père, un entretien avec la fille, et puis après, t'avais à chaque fois un spécialiste qui débriefait l'entretien. Et en fait, ça m'avait vraiment mis en tête de ok, en fait. Quoi qu'il arrive, sans doute pour construire correctement, entre guillemets, ta fille, il va falloir merder d'une manière ou d'une autre. Il va falloir déconner, il va falloir aller au combat, il va falloir aller à la bagarre et tout. Et c'était assez intéressant, en fait. Donc ça, c'est vraiment sur le petit âge. Mais après, si tu veux, Mademoiselle, comment te dire à quel point ce travail au quotidien avec ces jeunes femmes géniales qui travaillaient avec moi m'a construit moi en tant que père, en tant que mec, en tant que père donc, m'a incité à aussi prendre conscience parce que j'avais des exemples, tu vois, de jeunes femmes cool qui avaient été élevées par des parents qui avaient eu parfois des rapports ultra compliqués avec leur père aussi parce que parfois on en discutait, tu vois, dans que ce soit d'ailleurs dans le cadre du boulot, parce que parfois ça pouvait faire des articles, ou de temps en temps à la pause déj, quoi. Où je les entendais, moi, raconter des trucs entre elles, où je me disais, putain, ouf, c'est pas évident, quoi. Mais après, ouais, globalement, tu vois, tout ce truc de, ok, comment tu fais pour faire en sorte de donner le plus de, par exemple, confiance possible à tes filles, quoi. Tu vois, comment tu fais pour faire en sorte de leur offrir le meilleur terrain de jeu possible, en fait, pour la vie, quoi. Parce que je crois que de toute façon, il n'y a que ça qui compte. Et pour boucler un peu, c'est que... En fait, j'ai fondé ce média, tout seul ou presque. En tout cas, je l'ai créé à partir de rien, quoi, tu vois. Et je l'ai amené, il y avait 35 salariés à un moment... La boîte faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois aussi que le média a fait plein de choses pour les jeunes femmes d'une manière générale. En tout cas, c'est ce qu'elles me disent. Encore là, aujourd'hui, régulièrement, je reçois des messages qui m'ouvrent un peu le cœur en deux à chaque fois. Quoi, parce que c'est assez ouf de se rendre compte de à quel point tu as pu avoir, en faisant un truc au quotidien, tu vois, un impact sur la vie de jeunes femmes qui viennent te voir 5-10 ans plus tard en te disant bah, « Merci, en fait, je suis... » la meuf que je suis aujourd'hui grâce à Mademoiselle, quoi.
Et tes filles, elles te remercient de ce travail-là? Elles connaissent Mademoiselle ou...
Non, parce qu'en fait, c'est trop drôle. Non, parce qu'en fait, pour elles, je suis leur père, tu vois. Ouais. Et de temps en temps, je leur envoie des petits messages pour partager un peu, tu vois, les messages que je reçois. Mais pas vraiment pour... c'est pas vraiment égotique, en fait. C'est juste pour leur dire, tenez, regardez, en fait, c'est cool d'avoir un impact cool. C'est possible d'avoir un impact important sur les gens, en fait, juste en étant, en ayant monté ton truc dans ton grenier et de l'avoir fait grandir au fil de l'eau et avec le temps et au bout de 15 ans, quoi.
Ouais, c'est pas toi qui leur envoie un message pour leur dire « Regarde, ton père est génial, quoi. »
Non, c'est pas vraiment mon truc. C'est plutôt regarder comme... C'est possible, en fait. Tu vois, moi, je crois que j'ai manqué un peu de ça, de cet exemple, tu vois, de... En fait, tu peux par ton travail... changer le quotidien des gens, en fait, tu vois.
Okay.
Et, mais non, parce que c'était drôle, parce qu'une fois, on avait un genre 10 heures de route à faire, je crois que c'était notre premier été où on était partis à tous les trois en vacances, en fait. Donc, on avait 10 heures de route et je m'étais dit, bah, si vous voulez, on peut demander à ma commu de faire une FAQ où elle vous pose des questions et vous répondez. Comme ça, vous occupe un peu. Moi, pendant ce temps-là, je conduis, c'est cool. Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a vraiment une meuf qui a dit, qu'est-ce que ça fait d'avoir un père qui est une star, tu vois. Et elles ont vraiment répondu, bah, c'était il y a 3-4 ans quand elles étaient encore petites, elles ont répondu, bah nous c'est notre papa.
C'est con, hein, nous c'est notre papa. Il y a, par rapport à justement à ce projet quand même qui a été un projet énorme dans ta vie, et dans ta vie d'adulte, dans ta vie de père, dans ta vie d'entrepreneur, je t'ai entendu dire il n'y a pas longtemps dans un podcast que tu étais dans un état d'esprit aussi Je cite « Quoi qu'il arrive, le projet prévaut ». Dans quelle mesure il a prévalu sur tes filles ?
Ah bah, complètement. En tout cas, dans cette période.
Dans quelle mesure ? Qu'est-ce que tu as raté ? Qu'est-ce que tu te dis avoir raté, du moins ?
Je réfléchis pas comme ça, tu vois.
Ouais.
Je regarde pas vers le passé, parce que pour moi, sinon, ça sert à rien, ça donne que des regrets. Mais merci de poser cette question, parce que elle est vraiment, elle est importante, je crois, parce que bon là maintenant, donc ça fait 15 ans que je suis père. En 15 ans, t'as le temps de faire des choix qui t'allaient très bien à l'instant T. Et que tu peux éventuellement regretter 10-15 ans plus tard, quoi, tu vois. Moi, en 2000... Donc, j'ai fondé Mademoiselle en 2005. Ma première fille est née en 2006. Ma deuxième est née en 2008. Et en fait, je crois déjà 2009, je sens que, en fait, ça va être compliqué de faire tourner cette boîte depuis Lille, là où on vivait, en fait, avec les filles, avec... leur mère, à l'époque ma femme, et je sens qu'en fait ça va être compliqué de faire tourner cette boîte et de la faire grandir, de faire grandir un média qui est d'envergure nationale, tu vois, depuis une ville qui n'est pas à Paris, voilà. Parce que en fait la France est un pays ultra centralisé, notamment sur les médias, où c'est très très compliqué. Je crois que tu peux faire grandir un business de e-commerce dans le nord de la France, tu vois, parce qu'il y a plein d'infrastructures, il y a plein de boîtes. Historiquement, c'est le centre de la VPC, etc., tu vois. Donc, il y a des boîtes qui sont créées, mais les médias, c'est à Paris. La publicité, le monde de la publicité, il est à Paris. Le monde des agences de pub et des agences médias qui régissent le marché publicitaire, il est à Paris. Les tournées d'artistes, etc., de promotion, elles sont à Paris aussi. Donc, il faut être à Paris. Et en fait, ouais, c'est ça. Genre, 3-4 ans plus tard, je commence à me rendre compte qu'en fait, ça va être compliqué de faire grandir cette boîte en dehors de Paris. Mais moi, en fait, ma femme et ma famille, ils sont à Lille, quoi. Tout le monde est à Lille. Et donc, en plus, en attendant, moi, les premières années, vraiment, j'ai été... relativement présent, si tu veux, tu vois, dans leur vie. J'allais les chercher chez la nounou. Je bossais encore à la maison à l'époque. J'allais les chercher chez la nounou. Je m'en occupais jusqu'à 19h, 19h30. À partir du moment où leur mère rentrait, tu vois, et souvent on se donnait un peu le relais. Et moi, je continuais à terminer ma journée à partir de ce moment-là, quoi. Et en fait, je me souviens très bien que entre la prise de conscience et le moment où je l'ai fait, il s'est encore passé 3-4 ans, parce que c'était très très compliqué pour moi de me dire que j'allais rater. Je me souviens que le truc sur lequel je faisais à l'époque, c'était le câlin du soir et le bisou de bonne nuit et le petit moment qu'on passait tous les soirs à lire une histoire ou à se raconter des blagues ou à partager ce moment-là qui était important pour moi. Mais en fait, j'étais malheureux, tu vois. J'avais beau faire ces moments de bisous de bonne nuit, etc. Je sentais que mon projet, il avait de l'envergure potentielle et que le fait de le laisser à Lille, je le sacrifiais aussi quelque part, quoi, tu vois. Et donc, 2012-2013, je finis par aller voir ma femme à l'époque et lui dire, écoute, j'ai ce projet-là et en fait, ça me fait chier pour... Parce qu'en fait, je sais que si j'ouvre des bureaux là-bas, il va falloir que j'aille passer du temps, sinon ça sert trop à rien, quoi. Et puis surtout, j'en ai envie, quoi. Et en fait, je me suis fait une réflexion à l'époque. Je me suis dit, ok, pars du principe que quand elles auront 13, 14, 15 ans, tu vois, elles soient adolescentes et qu'en fait, comme toutes les ados, elles vont te chier dans les bottes, parce que c'est comme ça que ça marche. Est-ce que tu seras capable, si tu n'ouvres pas tes bureaux à Paris et si tu sacrifies entre guillemets ton projet professionnel, parce que le projet aurait vécu, tu vois, mais il aurait vivoté, quoi, ça aurait été bof. Tu vois, je me disais, est-ce que tu seras capable de ne pas leur en vouloir et de pas te dire, ok, en fait, vous êtes horrible avec moi et d'un autre côté, je suis quand même resté à Lille, j'ai quand même sacrifié mon projet professionnel pour m'occuper de vous, quoi. Et je crois pas que j'aurais été capable de le faire. Et surtout, en fait, je savais que c'était pas en restant à Lille que je serais heureux, tu vois. Donc j'ai fini par ouvrir ces bureaux et par partir, on va dire, du mardi matin au vendredi après-midi, où je passais de ce fait-là moins de temps avec elle. Au départ, je me souviens très bien que j'avais un peu ce truc de « non, mais on va se passer des coups de fil et ça sera sympa », mais elles en avaient rien à foutre, quoi. Tu vois, elles étaient toutes petites, le soir, elles étaient crevées. Parfois, on se passait des petits coups de fil vidéo, mais en fait, elles étaient cuites. Bref, donc en fait, j'ai assez rapidement laissé tomber l'idée de vouloir me raccrocher à une forme de quotidien et plutôt, en fait, à profiter de ce que pouvait m'offrir, tu vois, la vie parisienne et le boulot à Paris, et de me dire, bah, en fait, t'es là maintenant, donc let's go. Fais exploser ton projet. Et bizarrement, le projet a explosé en l'espace de quelques mois. Tu vois, on est passé de 3 personnes à 10 personnes. Après, je ne sais pas où est l'œuf, où est la poule, tu vois. À quel moment je me suis retrouvé à faire grossir le projet aussi parce que j'avais décidé de quitter la famille, en tout cas la semaine, et tu vois, de m'y être mis, je ne sais pas. Mais en tout cas, la boîte a grossi. On est arrivé jusqu'à 35 salariés à la fin. Et tu vois, Kim qui est ma deuxième, qui a 13 ans aujourd'hui, m'a dit un truc l'été dernier qui m'a un peu piqué la gueule, mais en même temps, c'est comme ça. Elle m'a dit, et puis pas méchamment en plus, tu vois, mais elle m'a dit, écoute, je me souviens plus de quand t'étais là.
Ouais.
Et moi, je sais, je m'en souviens très bien, parce que vraiment, tu vois, on a eu au moins 3-4 ans, tu vois, de journée. Tu vois, ta fille a 3 ans, donc tu vois bien le temps que tu peux y passer. Bon, en plus, toi, tu l'as à la maison, donc c'est encore un autre truc. Mais vraiment, tu vois, tous les soirs, j'allais la chercher. Et en fait, le samedi, en plus, ma femme bosser, donc si tu veux, je les avais tout le samedi, on allait faire les courses ensemble, on allait le goûter, on passait des moments marrants, etc., etc. Mais Kim m'a dit, moi, je me souviens plus.
Moi, ce que je retiens quand même de ce que tu dis, je trouve ça super intéressant de comment dire, déjà d'oser se projeter sur le fait que ce que je vis aujourd'hui, c'est potentiellement les regrets que j'aurai ou pas demain, tu vois, et je trouve ça très intéressant comme démarche. Je trouve ça aussi très, très intéressant de se dire, au-delà d'un père qui est présent, elles ont besoin d'un père qui va bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et je pense que ça marche d'ailleurs pour les deux parents. Mais fatalement, quand j'écoute ton récit, il y a forcément une question que j'ai envie de te poser. C'est de me dire, est-ce qu'on n'est pas aussi dans le stéréotype du mec qui fait le choix et qui, lui, a l'option, voire le privilège de pouvoir partir de la famille pendant que c'est encore une fois la mère qui s'occupe des gosses, quoi.
Bien sûr, mais en fait si tu veux, si ça avait été inversé, si la situation avait été inversée, j'aurais accepté avec immense plaisir. En fait, il s'avère que ma femme à l'époque, elle l'a toujours d'ailleurs, a monté une boîte ultra locale, tu vois, elle a monté une agence immobilière dans le quartier en plus. Donc vraiment, il y avait un truc de quartier, quoi, tu vois.
Desperate Housewife, quoi.
Bah, un peu, ouais. Mais Desperate Housewife dans le business, quoi, tu vois. C'est-à-dire ouais. Kat, son business aussi, c'est de connaître tous les parents d'élèves, c'est de connaître tout le tissu des parents. Enfin, tu vois, c'est de s'impliquer aussi dans l'école parce que... Et en plus, elle ne le fait pas pour des raisons de business, juste parce qu'en fait, c'est un truc qui lui plaît. Et en fait, elle a monté cette boîte locale-là aussi, ultra locale, parce que c'est un truc qu'elle adore faire, où elle est dans le milieu associatif local, elle est présidente de l'association des commerçants du quartier. Enfin, tu vois, elle est vraiment... c'est son truc, quoi, tu vois. Et donc, forcément, en fait, ce business qui, en plus, qu'elle avait créé à l'époque, je crois depuis... Elle avait créé un an avant Mademoiselle, donc tu vois, ça faisait bientôt 10 ans. Elle était en train de récolter les fruits de ce travail de terrain, entre guillemets, où elle finissait par revendre des maisons qu'elle avait vendues 5-6 ans auparavant, tu vois, de façon un peu automatique. Donc, je lui ai jamais d'ailleurs demandé, tu vois, de venir vivre à Paris. C'est elle, au départ, qui, quand elle venait passer régulièrement des week-ends, tu vois, où on prenait des week-ends ensemble sans les filles, ou parfois les filles venaient aussi, on passait des week-ends à Paris. Et en fait, je me souviens qu'au départ, elle regardait un peu les prix, tu vois, des apparts immobiliers, enfin des apparts parisiens et tout. Elle s'est rendue compte qu'on allait échanger notre maison de, je ne sais plus combien, elle faisait 100 mètres carrés à l'époque, tu vois, contre un appart de 50, parce qu'elle était un peu aussi dans ce truc de, mais en fait, moi aussi, je peux faire le sacrifice de faire les allers-retours, tu vois. C'est un truc que je pourrais faire. Et moi, je lui disais, mais je crois vraiment qu'on va perdre en qualité de vie, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais après, si c'était un projet qu'elle aurait voulu faire, let's go. Mais franchement, si ça avait été dans l'autre sens, ça aurait été grand plaisir. Et en fait, je m'en serais voulu aujourd'hui de ne pas l'avoir fait. Et je crois d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai mis à ce point-là autant de temps, c'est que j'avais un peu des remords, tu vois, en tant que, par rapport à l'image du père parfait que je projetais, et en tout cas par rapport au père que je voulais être, tu vois. Le père que je voulais être, c'était un père présent, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que le père présent, c'était super, tu vois, mais qu'en fait, ça allait me rendre malheureux, en tout cas par rapport à ce projet que j'avais et dont je sentais qu'il était plus grand que tout, encore une fois, qui prévalait, tu vois, sur tout le reste. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, tu vois, que j'ai vendu la boîte, ça fait 1 an et demi. Alors, bon, la situation a changé parce qu'en fait, en plus, les joies de la quarantaine nous ont amené à nous séparer avec son ex-femme. On s'entend encore avec son ex-femme, avec mon ex-femme. Ouais. on s'entend très bien, en fait, tu vois, avec la mère des filles. On a passé 25 ans ensemble, tu vois, on s'est connus au lycée, donc on a vraiment fait en sorte de privilégier la relation. Et donc, j'ai eu éventuellement la possibilité, tu vois, de venir rentrer vivre à Lille, mais en fait, Lille, c'est plus ma vie, c'est plus ma ville depuis quelques années, parce qu'en fait, moi, mon tissu social, mon tissu professionnel, aujourd'hui, il est à Paris. Ouais. Et puis surtout, en fait, j'ai proposé aux filles, tu vois, elles sont grandes aujourd'hui, hein. Donc l'été dernier, je leur ai proposé. J'ai mis un peu de temps parce qu'en fait, j'avais peur de leur réponse, en fait. Donc j'ai mis 2-3 mois, tu vois, à oser leur proposer. Et effectivement, elles ont fini par me dire, écoute, non, 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 c'est bien, reste à Paris. Comme ça, nous, on a un pied à terre, tu vois. On peut venir, on vient kiffer les vacances, ça sera super. Et en fait, on ne veut pas vraiment d'une garde alternée où tu serais dans la même ville. Et moi, globalement, comme j'ai plus vraiment d'amis, tu vois, à Lille, je me suis dit, bon, bah, si vraiment ça ne vous intéresse pas plus que ça, let's go, quoi. Donc, on recrée une nouvelle... On recrée une relation, quoi, tu vois, à base de messages vocaux, à base de petites vidéos qu'on s'envoie. Enfin, c'est pas vraiment la même chose.
Mais elles n'ont pas le même âge non plus, quoi.
Tu vois, ouais, exactement.
Ça aide. Justement, en parlant de pas le même âge, t'es passé où tu passes, ou peut-être pas toi, tu vas me dire. Mais moi, en tant que père d'une petite fille de 3 ans, il y a des sujets, si tu veux, sur lesquels je me dis, ça va être chaud, tu vois. Genre les règles, genre la sexualité. Comment ça s'est passé pour vous? Ou en tout cas pour toi, parce que je ne veux pas non plus dévoiler l'intimité de tes filles, hein, c'est certainement pas. Mais en tout cas, pour toi, en tant que père, si c'est ta place, c'est toi qui les as menées ou vécues. Enfin, tu les as vécues forcément en partie, mais...
Ouais. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Ouais. Parce qu'en fait, mademoiselle a énormément contribué à me détendre sur le sujet, en fait, tu vois. Après, j'ai beaucoup observé les pères plus vieux autour de moi et j'étais fasciné de voir à quel point ils faisaient une énorme différence entre la sexualité de leur fils et la sexualité de leur fille, tu vois.
C'est-à-dire ?
Bah, j'ai un très bon ami qui m'a dit un jour, mon fiston, je sais pas, il avait quel âge, je sais pas, peut-être 17-18 ans, tu vois, à l'époque. Ouais, il y a une meuf, putain, j'espère qu'il se fait bien sucer, machin. Enfin, tu vois, c'était un peu graveleux comme ça, tu vois. J'étais là, yes. Je t'ai jamais entendu dire de ta fille, qui avait quelques années de plus, ah putain, ma fille, elle a un mec, putain, j'espère qu'elle se fait bien lécher la chatte. Le mec, il est monté au plafond. Il m'a dit, mais ça va pas te parler comme ça ou quoi? J'étais là, bah, non, mais en fait, pourquoi tu fais un double standard comme ça, tu vois? Je trouve ça dingue. Et tu vois, je lui ai renvoyé ce truc-là et vraiment, je l'ai choqué, tu vois, à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais en fait, moi, ça me dérange pas que tu parles de la sexualité de ton fils aussi ouvertement, mais pourquoi tu parles pas de la sexualité de ta fille de la même façon? T'imagines les conneries que tu lui as plaquées dessus, en fait? Même pas méchamment, mais juste en pensant comme ça, de base. Tu mets une distance, que je comprends, hein, qu'il faut, c'est important de la mettre, hein, tu vois, entre père et fille. Mais tu vois, moi, en fait, j'ai jamais eu de problème à parler avec mes filles, tu vois, de sexualité, et puis d'écouter aussi, tu vois. Il y a, dans un épisode d'Histoire de Daron, il y a Martin Winkler qui racontait qu'il avait posé une boîte de capote dans la salle de bain, tu vois, très ouverte. Enfin, il y avait une boîte avec plein de capotes. Et en fait, je trouve que c'est une super idée, tu vois, pour... Alors, je sais pas si mon ex l'a fait. J'irai vérifier après, parce qu'en fait, ça fait partie des sujets dont on a parlé cet été, tu vois. Je lui ai dit, écoute, notre fille, elle a un copain, je crois qu'il va être temps de passer à cette fameuse boîte de capotes. Et en fait, c'est marrant parce que j'en ai parlé à des amis, et il y a eu tout de suite ce truc de « Ouais, mais c'est pour compter le nombre de capotes, c'est ça ?» C'est pour surveiller. J'étais là, mais vous êtes taré, hein, vraiment.
Ah ben non. Ouais, non, ouais, c'est chaud. J'aurais même pas pensé. Comme ça, tu vois. Moi, je voyais plus ça comme une ouverture à c'est là. Enfin, plutôt, tu vois, un message déjà, un message de santé, c'est-à-dire protège-toi, très clairement. Et aussi de dire, voilà, la boîte de capote, elle est visible parce qu'on est accessible, tu vois.
Exactement. Et donc, non, en fait, sur les règles et tout, mais c'est pareil, c'est des sujets dont on parle hyper ouvertement, mais parce qu'en fait, moi, j'ai jamais montré de gêne. Et parce qu'en fait, encore une fois, je crois que Mademoiselle m'a beaucoup montré que c'était pas très grave, quoi, tu vois. Par exemple, chez Mad, elles avaient monté un truc fou à une période, c'est qu'en fait, elles avaient récupéré des, tu sais, des serre-têtes avec des oreilles de lapin, tu vois, qui, avec des ressorts, là, tu vois. Et en fait, les meufs en avaient récupéré 4-5. Et en fait, elles avaient décidé, quand elles avaient leur règle, ou leur premier jour de règle, ou je sais pas, enfin en tout cas, elles avaient mis une règle en place où elles se foutaient le serre-tête. En fait, c'était un peu « Fais gaffe, si tu viens me parler, peut-être ça peut partir.
» C'est bien de le savoir. J'ai une autre question pour toi. Parce que tes filles sont grandes, tu dois en avoir une au lycée, c'est
ouais,
ça ?
Début lycée, seconde.
Et une au collège ?
Quatrième.
Et des fois, le collège, ça peut être dur, ça peut être des périodes très compliquées. Et j'ai cru entendre dans un épisode d'un podcast que le petit Fabrice de 12 ans, ça a été compliqué pour lui, le collège.
Oh yeah.
Et en fait, je me demandais, quand j'ai entendu cette phrase, le premier truc que je me suis dit, c'est comment, quand toi, t'as un aussi mauvais souvenir du collège avec du harcèlement, comment est-ce que tu appréhendes tes filles qui vont aller au collège ?
Bah, la vie m'a rendu ce service. Qu'en fait, ma fille aînée s'est fait harceler dès l'école primaire.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ah, ok,
donc,
d'accord.
Il n'y a même pas eu besoin d'attendre le collège pour revivre une situation de harcèlement.
D'accord.
CM1. Elle est tombée sur une fille horrible qui a entraîné sa bande de potes à la harceler. Alors c'était.
C'est à quel âge là ?
CM1, 8-9 ans.
Ah, d'accord. Ouais.
Et en fait, on s'en est rendu compte. Petit tips pour les parents, parce que si tu veux, moi je partais du principe que justement. En ayant vécu ça, tu vois, j'arriverai à le repérer d'une manière ou d'une autre. Mais pas du tout. Pas du tout parce que... Alors déjà en 2000, quand elle avait 8 ans, j'étais déjà parti à Paris. D'accord ? Donc j'étais pas là au quotidien. Et en fait, on l'a repéré parce que... donc Lina voulait pas retourner à l'école après les vacances de Noël.
D'accord.
Et elle pleurait de ouf la veille de la rentrée, tu vois. Il y avait un truc pas normal, en fait, c'est que jusque-là, elle avait toujours adoré l'école, et que l'école, ça allait toujours bien, et qu'en fait, elle était toujours trop contente de rentrer à l'école et tout. Je crois que j'ai mis 2 heures à lui tirer les vers du nez, de façon... Bon, quand je dis tirer les vers du nez, c'est pas aussi violent que ça, mais tu vois, vraiment à l'amener, à venir parler, à venir raconter, etc. Elle voulait pas du tout. Et en fait, quand elle a fini par sortir le dos... Bah ouais, je suis vraiment tombé du grenier à la cave, quoi, tu vois, c'était vraiment pas... C'était pas évident. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à... J'ai convoqué... Je sais pas si c'est une bonne solution avec le recul, hein, mais en tout cas, voilà ce que j'ai fait à l'époque. J'ai demandé à tout le monde, donc aux parents de tous les enfants, plus à l'instit, tu vois, qui était génial, hein, d'ailleurs, par ailleurs. Je les ai convoqués. Et en fait, j'ai parlé aux mômes. Je suis allé voir les filles. Je leur ai demandé, en fait, je leur ai dit, en fait, la prochaine fois que vous voulez faire du mal à Lina, je préférais que vous la tapiez. Que vous lui mettiez des coups de poing dans la figure, en fait. Et donc, les parents étaient choqués. Les enfants étaient choqués. Et je leur ai dit, mais parce qu'en fait, là, ça fait des mois que vous êtes en train de faire du mal à Lina, et qu'en fait, on le voit pas. Parce qu'en fait, ça crée pas de coups, ça crée pas de blessures. Et moi, ça fait des mois que j'ai l'impression que Lina va bien, et qu'en fait, ça va pas du tout. Et les parents ont tout de suite fait « Oh, mais tu peux pas dire ça hein. !» J'ai fait « Si, si, parce qu'en fait, vos mômes, là, alors je sais qu'ils sont... Elles le font pas exprès, hein, tu vois, mais elles sont en train de... C'est comme si elles la cognaient, quoi, tu vois. » Donc en fait, on a fini après par leur demander de s'expliquer, en fait, juste en se rendant... Enfin, les gamines ne se rendaient pas compte, en fait, tu vois. Mmh. Puis il y avait un effet d'entraînement, il y avait une leadeuse dont la mère n'était pas là, bien sûr, et les trois autres enfants, les trois autres copines dont les parents étaient là, et en fait... Le truc s'est un peu calmé parce qu'en fait, la leader s'est retrouvée un peu toute seule. Et ça a atténué un peu le truc. Et puis après, bah, ça a été l'occasion d'aller voir une psy pour la première fois.
À 9 ans.
Ouais, c'est ça, 8-9 ans. Ouais. Bon, voilà. Mais ouais, c'est... Puis ça s'est reproduit au collège. Donc, parce qu'en fait, c'est pas parce que tu réussis à esquiver une balle... en CM1, tu vois, que ça se reproduit pas plus tard. Mais en fait, c'est cool, parce que j'ai l'impression qu'au collège, elle a fini par toucher le fond, tu vois, de façon un peu dure. Elle a fini par faire une semaine en HP. Enfin, ça n'a pas été une période très très facile. Mais ça lui a permis de pouvoir comprendre un petit peu aussi ce qu'elle attendait... Ce qu'elle attendait d'elle, ce qu'elle attendait des autres. Et puis bizarrement, aujourd'hui, elle a un groupe de copains hyper, hyper positif. Elle n'a plus de personnes toxiques. Et quand il y a des personnes toxiques qui veulent venir toquer à sa porte, quoi, tu vois, pour le coup, elle ne les laisse plus rentrer. Quoi. Et tu vois, à côté de ça, la petite deuxième, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle a un bouclier... naturel, très efficace de... En gros, si tu me saoules, ça dégage.
Filtre à connard intégré, bonjour.
Ouais, c'est ça. Les enfants sont pas...
Et toi, quand...
Ouais.
Ouais.
Non, j'allais dire, les enfants sont... C'est marrant, en fait, que d'un enfant à l'autre, ils aient pas le même rapport au monde, quoi, tu vois.
Moi, c'est un truc qui me fascine dans les fratries, ça. De voir que des enfants qui... On dit souvent qu'ils ont le même environnement, mais en fait non, ils n'ont pas le même environnement parce qu'on n'est pas les mêmes parents, parce que on n'est pas tout change en fait.
Même, clairement.
Même si c'est le même sexe, même si c'est le même genre, tout
change. Ouais, deux ans d'écart. Enfin, tu vois, nos filles, 2 ans d'écart, on n'a pas eu du tout la même éducation, quoi. Je crois que il faut vraiment se leurrer pour partir du principe que tu as la même éducation avec tes enfants, quoi.
Et c'est ça. C'est compliqué. Le simple fait qu'il y ait un rapport, de toute façon, de fratrie, de position, fait que c'est pas pareil. En tout cas, c'est pas ressenti pareil.
Exactement.
Sont mieux, mais c'est pas ressenti pareil. Et toi, en tant que père, comment tu t'es senti ? Parce que il y a quand même ce moment où tu vois ta fille qui souffre. Il y a ce moment où ça peut réveiller ce que toi t'as traversé. Comment tu fais, où tu la trouves cette force d'agir après, à tort ou à raison par rapport aux dispositions que tu as prises, on s'en fout, mais en tout cas, t'es pas tombé dans le stéréotype du père qui pète un câble et qui veut frapper tout le monde. Où tu la trouves cette force d'agir comme ça avec une certaine réflexion, sérénité? Est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas un truc qui te dit putain, mais elle est tous vous fait enculer, quoi?
Non, parce qu'en fait, je crois qu'après le collège, où je me suis fait harceler par ma bande de potes en plus, donc autant te dire que on tient du lourd aussi, quoi. J'ai eu la chance de rentrer au lycée. Donc déjà, j'ai pris 15 cm. Bizarrement, on te fait beaucoup moins chier quand t'es un poil plus grand, quoi, tu vois. Bon, ça c'est...
Je confirme. Voilà.
Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un mec, parce que je suis rentré dans une classe au lycée où je connaissais personne, donc j'avais plus personne de mon collège, donc c'était vraiment table rase, tu redémarres de zéro. Enfin, je trouve que c'est vraiment une configuration déstabilisante certes, mais vraiment géniale. Et je suis tombé sur un gars que j'ai commencé à moi-même bolosser pendant peut-être une semaine ou 15 jours, tu vois. Et en fait, j'ai eu cette chance dingue de tomber sur lui parce qu'il m'a vraiment dit, à un moment donné, il m'a dit « Mais en fait, ça me blesse quand tu me dis ça. C'est pas cool. T'as l'air trop sympa, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça avec moi, quoi. » Et vraiment, tu sais, j'ai eu ce moment de flash, de recul, de
« Ok.
» Donc en fait, c'est moi.
Je suis en train de refaire subir.
Je suis laid.
Parce que bon, bah voilà, en fait, en général, souvent, les harceler... Enfin, les harcelés deviennent des harceleurs, c'est un grand classique, c'est tout comme...
Bah, tu sais que je vais confirmer ton propos, puisque moi quand j'étais au collège, je vais pas m'étendre plus dessus, hein, mais c'est juste, j'étais petit, enfin j'étais de taille normale plutôt, dans la norme, et assez gros, enfin enrobé en tout cas, et en fait je suis parti 3 semaines au Burkina Faso, j'ai bu de l'eau, et en fait, et true story, hein, je suis revenu, j'avais perdu 15 kilos, et en même temps, en 3 semaines, j'avais pris 8 cm. Alors, outre le fait que mes parents ne m'aient pas reconnu, bizarrement, à la fin, au retour, j'étais plus du tout perçu de la même manière, on ne m'a plus jamais harcelé. Par contre, en effet, j'ai eu harcelé pendant 3-4 mois, une meuf en l'occurrence. Et c'est vrai que... Je sais pas dans quelle mesure c'est une vengeance. Je sais pas dans quelle mesure c'est peut-être l'expression de détecter chez l'autre. Parce que tu vois, c'est une meuf qui était très forte, mentalement parlant, tu vois. Et en fait, je sais pas si dans une certaine mesure, tu vois, c'est pas de détecter qu'elle était aussi hors de la norme et qu'elle, on la faisait pas chier, quoi. Tu vois, c'était pas spécialement personnel, mais juste de dire pourquoi est-ce que t'es dans le même cas que moi et que toi, on t'emmerde pas, tu vois. Et voilà, bon, fin de ma parenthèse. Mais en effet, c'est quelque chose d'assez classique comme parcours,
oui.
Comme réaction.
En fait, quand tu pars du principe que l'amitié, c'est ça, forcément, tu vois, aussi, l'amitié, ouais. C'est ça.
Ça reste un lien d'attachement.
Ouais, donc voilà, en fait, tu vois, je crois que ce truc-là aussi m'a fait prendre conscience que bah, tu pouvais changer de chaise, en fait, assez facilement. Tu pouvais passer de harceleur à harcelé ou harcelé à harceleur. Et que dans la vie, tout n'est pas forcément... Il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre, quoi. Tu vois, il y a plein de nuances de gris. Et en fait, je trouvais ça cool de montrer aux filles, aux gamines et aux parents aussi, tu vois, que les mots pouvaient blesser, les mots pouvaient faire du mal, quoi. Et en fait, c'est un sujet dont on a, encore une fois, Mademoiselle revient au centre de la discussion, n'est-ce pas? Mais on a énormément traité le harcèlement scolaire. Alors, avec le recul, je me rends compte que c'était un sujet sur lequel j'étais à fond, quoi. Et puis surtout, c'était un tabou. Donc, tous les tabous chez Mademoiselle, on les a pris, on leur a mis des petits clés de bras, quoi, tu vois. Et pour moi, surtout, il y avait un vrai gros tabou à l'époque, en tout cas sur le harcèlement scolaire. On n'en parlait pas du tout. Enfin, tu vois, c'était... je te parle de ça, 2010, 2000, 2009, 2010, 2011, quoi, tu vois. Et on a fait parler plein de... On a fait parler plein d'enfants harcelés, d'anciennes harcelées. Et aussi, on a donné la tribune à des harceleurs ou des harceleuses. C'était hyper intéressant, d'accord. En fait. Ça nous a valu plein d'inimitiés notamment parmi les victimes de harcèlement, ce que je peux comprendre. Mais en fait, je trouvais ça, moi, très important de chercher à comprendre aussi ce qui faisait que tu finissais par devenir un harceleur, quoi, tu vois.
Mais il y a des mécanismes derrière.
Ouais, bien sûr.
Je pense qu'il ne faut pas faire généralité, il peut y avoir plein de raisons, mais la violence se ferait toujours un chemin qui se ressemble un petit peu, je trouve. À différents endroits, mais un chemin qui se ressemble. Justement, en parlant de harcèlement, en 2016, tu as connu une vague de diffamation et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et je précise pour ceux qui nous écoutent que j'ai bien posé mes mots, merci. Moi, ma question, c'est pas le harcèlement lui-même, c'est plutôt comment, en tant que père, parce que c'est quelque chose forcément qui te touche, ce genre de moment, comment, en tant que père, tu en parles, si tu en parles à tes enfants, comment est-ce que tu leur en parles ? Quand toi, tu vas vraiment pas bien, quoi.
Ce fut un moment compliqué. Alors, ce fut un moment compliqué par plein d'aspects, mais disons que la casquette de père à ce moment-là et la casquette de parent, parce qu'en fait, ma femme à l'époque est elle aussi concernée, si tu veux, parce qu'elle est elle aussi complètement désemparée par rapport à ce truc-là. Elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment gérer. Je ne te parle pas des accusations, etc. Elle a toujours été à 1000% derrière moi. Elle n'a même jamais posé la moindre question de « est-ce que tu as vraiment fait des trucs, quoi, tu vois ?» Jamais. Mais en tant que parent, c'était un vrai truc. Et tu vois, en fait, quand tu subis ce genre de truc, moi, je deviens parano, c'est-à-dire que je finis par partir du principe que tôt ou tard, mes filles vont rencontrer des gens dans leur cours de récré qui vont leur expliquer que leur père est un sale pervers, est un sale con, quoi, tu vois. Et elles ont, à l'époque, 8 et 10 ans. Donc, c'est vraiment petit. J'ai pris.
Ouais, petit, et en même temps, ça comprend et ça parle déjà beaucoup.
Exactement.
Vois, de,
mais je vais.
L'actualité à cet âge.
Je te raconterai après parce que, en fait, mes filles voient bien que. Enfin, mes filles sentent tout de suite, en fait, que ça va pas. Et pourtant, j'ai vraiment fait en sorte, tu sais, de faire comme Danny Boone dans le sketch, là. Je vais bien, tout va bien. Et en plus, je l'ai vraiment fakeé parce que dans ma tête. J'ai tellement mis le trauma sous un tapis, si tu veux, que je suis vraiment rentré, genre 2 jours après, je suis rentré à Lille et j'étais vraiment dans cet état-là, quoi. Non, mais t'inquiète, tout va bien, ça roule, pas de problème. À l'intérieur, j'étais détruit, mec. Détruit. Donc ouais, je la joue comme ça et en fait, effectivement, pendant le week-end, la question se pose, tu vois, de comment ça va grossir, est-ce que ça va grossir. Et en fait, tu vois, notamment, il y a des amis de Kat, donc mon ex, qui lui envoie des messages qui n'ont strictement rien à voir avec Internet, qui sont dans le game de l'immobilier lillois, tu vois, et qui lui envoie un message pour lui dire « Comment ça va ton mec, au fait ?» Donc là, tu te dis « Ok, c'est en train de sortir de la sphère parisiano-parisienne médiatico-médiatique, quoi, tu vois. Rue 89 avait fait un article, enfin bon, bref, c'était terrible. Un article sur rien d'ailleurs, mais bon, fabuleux. Avec le recul, quelle joie. Et donc, bah ouais, je suis allé voir mes filles en fait, à table, en leur disant, écoutez, sans en faire non plus, tu vois, un événement, c'était à table, c'était pas, on les a pas mis, papa a besoin de vous parler, etc. Juste pour les filles, pour info, les filles, il y a ça qui se passe, quoi. Et ok, bah, elles étaient au courant, tu vois. Elles nous en ont jamais trop reparlé. Alors après, bien sûr, elles ont vu que papa est allé en thérapie, que maman était extrêmement perturbée parce qu'elle savait pas comment gérer ce truc-là, que ça nous a secoué le couple à tel point que 4 ans plus tard, on décide de se séparer. Donc, et quand je te dis ça, c'est des bonnes choses. Hein. C'est-à-dire que ce divorce, pour moi, est une bonne nouvelle. Je me permets de citer Louis Siquet, je sais que c'est toujours compliqué de citer Louis Siquet, mais ce mec a quand même des réflexions extrêmement géniales où il dit « Un divorce n'est jamais une mauvaise chose, en fait, parce que vraiment 0% des mariages heureux terminent en divorce. » Donc, effectivement, c'était une bonne nouvelle pour nous deux. Je crois que c'était une bonne nouvelle aussi pour les filles, même si ça a été un peu compliqué à avaler les deux premières années. Ça va un peu mieux maintenant. Mais en fait, Lina qui a 15 ans aujourd'hui, qui a notamment des potes qui sont à fond sur Twitter, tu vois. Elle a un pote qui adore Twitter et qui lui a dit « Mais moi, j'adore Twitter, je découvre plein de choses dessus et tout. » Et Lina vient me voir un soir en me disant « Écoute, j'ai mon pote, là, il m'a dit que Twitter, c'était génial. Mais moi, je crois pas. » Et en fait, je sais pas pourquoi. Je lui ai juste dit, écoute, mon père, il a eu des histoires avec Twitter. Et je crois que c'est de la merde, mais je sais pas pourquoi. Et je sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc c'était il y a 5 ans. Elle a 15 ans aujourd'hui, elle avait 10 ans à l'époque. Ça a un peu changé.
Eh mais ouais.
Et en fait, on a eu cette discussion-là il y a un mois, tu vois, de okay, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc là, je lui ai raconté tout dans les détails. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une petite adulte, donc elle peut comprendre. Donc on a pleuré ensemble, elle a pleuré dans mes bras, j'ai pleuré avec elle, enfin, c'était ultra cool. Et puis peut-être qu'un jour, Kim viendra me voir aussi, tu vois, pour me demander de son côté, et que je lui réexpliquerai exactement de la même façon, quoi. Et ça fait partie de mon histoire, et ça fait partie de l'histoire de la famille, et ça fait partie de notre histoire. Et en fait, ça m'a amené en thérapie. Donc en fait, c'est sans doute le plus beau cadeau avec le recul qu'on pouvait me faire, quoi.
En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est quand je t'entends parler de ces différents moments, que ce soit la création de ta boîte, que ce soit ça, ce que je retiens, c'est beaucoup de réflexion sur ce qui est bon pour moi et bon pour ma famille aussi. Tu vois, et aussi beaucoup de j'ai d'ouverture à se comprendre même entre père et fille, tu vois, et fille et père, enfin entre fille et père, ça c'est bien leur choix, tu vas me dire, mais en tout cas l'exemple est là sur le sujet, tu vois, c'est quelque chose, moi en tout cas, vers lequel je tends de verbaliser. La mienne a 3 ans, donc on va se calmer sur les sujets, mais en tout cas, de me dire ça, c'est quelque chose, je pense que c'est important de verbaliser, d'expliquer ce qu'on ressent, parce que ça ouvre aussi la porte à le jour où elle aura quelque chose, de savoir que si moi je l'ai fait, elle peut le faire, quoi.
En fait, y a rien de mieux que d'éduquer par l'exemple, je crois. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire, tu vois. Et en fait, à l'époque, c'était avant tout le délire de charge mentale, etc., etc. Enfin, le délire, pas le délire, mais en tout cas, que le sujet sorte sociétalement aussi fort, quoi. Mon ex m'avait dit un truc très juste. Elle m'avait dit, écoute, t'es gentil de te dire féministe et tout, mais en fait, globalement, dans la maison, tu fais pas grand-chose. Et c'est vrai que c'était le cas, puisqu'en plus, tu vois, j'étais, comme tu le disais tout à l'heure, j'avais eu cette chance et ce choix de pouvoir quitter la maison, tu vois. Et c'est vrai que je faisais pas grand-chose, parce que globalement, j'étais à distance. L'histoire voudra que plus tard, j'ai tenté de venir m'intégrer dans l'organisation géniale de mon ex-femme, et que j'ai quand même pas mal foutu le bordel en tentant, donc finalement... Je sais pas trop si c'était une bonne idée, mais en tout cas, il y avait une volonté, tu vois. Et en fait, elle avait raison. Elle m'avait dit, mais t'es gentil de dire que t'es féministe. Mais en attendant, tes filles, elles te voient pas, faire le linge, t'occuper de tout ça. Et je lui avais dit, mais ouais, t'as raison. T'as raison. Et en fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'aujourd'hui, elle me voit m'occuper de mon propre... tu vois, je leur fais à manger, enfin, tu vois. Mais simplement... On en a reparlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je lui ai dit, tu sais, ça a été compliqué pour moi aussi, parce que c'était compliqué pour moi de mettre en action, en tout cas au sein du foyer, tu vois, les trucs que je pouvais apprendre par ailleurs, parce que en étant à distance, c'était pas forcément le truc le plus évident à faire, quoi. Et l'air de rien, ça m'a ce divorce, cette séparation m'a vraiment permis de pouvoir me prendre en main aussi, et de pouvoir même tester, tu vois, mes skills sur certains trucs. Je savais que j'aurais aucun problème, tu vois, pour gérer mon ménage et ma lessive et tout ça, mais c'était, et puis même, tu vois, j'ai appris à faire la cuisine, tu vois, et je crois aujourd'hui que je suis bien meilleur je suis bien meilleur en cuisine que la mère de mes filles. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Et moi, je suis là, yes. Non, je déconne. Je plaisante.
Le vieux mythe de la bataille à distance.
Ouais, c'est ça. Non, non, pas du tout. En plus, on n'est pas là-dedans. Mais je trouve ça cool aussi de leur montrer qu'il y a une alternative. Tu vois, que c'est possible. Et tu vois, quand on. Je sais que. Enfin, tu vois, mon ex, par exemple, il faut que rien bouge. Enfin, tu vois, elle adore que tout soit programmé dans la journée, etc., etc. Bah, quand c'est avec moi, en fait, c'est beaucoup plus détendu. Et en fait, au final, on finit quand même par faire des trucs. Et je trouve ça assez cool, finalement. Ça a donné, ça donne un peu d'air aussi aux filles, tu vois. Elles ont maintenant deux modèles d'éducation, là où avant, elles en avaient peut-être un et demi. Parce que je venais faire peut-être le demi, quoi, tu vois.
Ouais, c'est bien, c'est-à-dire que même... Encore une fois, même en étant moins présent en termes de prorata de temps, il y a aussi le, qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est imparti. Et j'aime bien cette vision-là. Merci beaucoup, Fabrice.
Avec plaisir.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.